Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là et à l'heure. Je propose qu'on attende encore quelques minutes parce qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver. Et puis nous attendons les personnes les plus attendues de cette réunion, l'équipe de Smovengo qui est en route mais est en train de décoller des autocollants toute la journée. Et donc voilà, on nous annonce leur arrivée dans 5 minutes. Donc on va démarrer une fois qu'ils sont là. Bien. Bonsoir à toutes et tous, donc rebonsoir pour les personnes qui étaient là il y a 2 minutes. Merci d'être là pour cette deuxième réunion du comité des usagers de Vélib Métropole. On avait fait une première réunion il y a quelques mois, il y a 3 mois, où on avait fait une présentation globale du fonctionnement du service, du point de vue du syndicat. Il y a un acteur nouveau qu'on a convié ce soir et qui est très important, et je laisserai les personnes se présenter puisqu'il s'agit de Smovengo, qui est l'exploitant du service. Je vais juste vous dire quelques mots sur la façon dont on a fonctionné pour préparer cette réunion, dont va se passer la réunion et puis un peu les perspectives. On avait pris l'habitude depuis 3 ans de demander aux usagers, à l'ensemble des usagers, d'apporter des contributions, des questions sur le fonctionnement du service pour voilà, nourrir aussi les réflexions du comité des usagers avec l'expérience, les idées des uns et des autres. Et donc c'est un premier document qui a été constitué, qui s'appelle « Contribution des usagers ». Et ensuite, on a demandé à Smovengo de répondre de façon précise sur les différentes questions qui ont été posées par les usagers. Et puis le syndicat lui-même a fait une réponse sur les différentes questions. Ces documents, on les a diffusés en ligne avant-hier.
Oui,
voilà. Et donc, c'est. J'espère que vous avez pu en prendre connaissance. Vous pouvez les trouver sur le site du syndicat
et sur
Twitter. Voilà. Et ils ont été envoyés à l'ensemble des usagers. Donc, vous les avez dans votre boîte mail. L'objectif, c'est pas forcément de revenir en détail sur les différentes réponses qui ont été apportées. Évidemment, si vous avez des questions par rapport. Si vous trouvez que les questions qui ont été posées, les réponses ne sont pas suffisamment complètes ou que vous avez des observations à faire, évidemment, on est là pour en discuter. Mais ce qu'on voulait vous proposer pour ce soir, c'est de faire une présentation par Smovengo des moyens qui sont mis en œuvre pour l'exploitation du service. Voilà, pour que vous compreniez bien comment fonctionne le service. Il y a une idée qui avait été amenée la dernière fois. Il y a quelqu'un qui avait été intervenu en disant on est nombreux, ce serait bien qu'on puisse fonctionner peut-être avec des ateliers participatifs, avec un format dans lequel on est moins dans des prises de parole successives. L'idée n'est pas perdue, mais on se disait que pour ce coup-ci, ce serait peut-être mieux d'avoir cette présentation de cette façon-là et que la prochaine réunion qui aura lieu à la rentrée, on va réfléchir à un format de cette nature-là pour aller un petit peu plus loin dans les réflexions avec les uns et les autres, les équipes de Smovengo et les équipes du syndicat. Voilà, je vous propose pas de faire un tour de présentation de chacun parce qu'on est nombreux. Mais ce que je vous demande, c'est que lorsque vous allez prendre la parole tout à l'heure, et je vous invite à le faire, évidemment, que vous puissiez simplement dire de qui vous êtes, vous présenter et puis dire de quelle commune vous êtes, dans quelle commune vous habitez ou quelle expérience vous avez. Du service. Voilà. Moi, pour ma part, je suis Sylvain Réfaux, je suis le président du syndicat Autolib Vélib Métropole depuis octobre 2020 et je suis conseiller de Paris du 10e arrondissement. Et je te laisse te présenter. Enfin, je vous propose que l'équipe du syndicat et évidemment l'équipe de Smovengo se présentent à vous. Cher Patrice.
Patrice Paté, donc vice-président de ce syndicat et par ailleurs adjoint au maire de la ville de Sceaux, donc en banlieue sud, peut-être pour les. Probablement connaissez-vous cette ville, qui compte aujourd'hui 4 stations Vélib.
Yannick Cabaret, je suis directeur général du syndicat Autolib Vélib Métropole.
Thierry Pereira, je suis directeur technique du syndicat Autolib Vélib Métropole.
Fatima Ilri, je suis chargée des relations extérieures et de la RSE, et je suis chargée en particulier du comité des usagers. Voilà, je suis votre interlocuteur, interlocutrice. Et de l'autre côté, nous avons Pierre.
Merci beaucoup. Et je passe la parole à Stéphane Volant, président Smovengo pour se présenter, présenter son équipe.
Merci beaucoup. Alors attendez, je vais juste me déplacer. Ce n'est pas un coup d'État, mais moi j'ai besoin de voir les gens dans les yeux, comme vous pouvez le faire, président. Donc comme je vais me présenter à vous, je préfère vous voir. Pardon, je vous tourne le dos, mais c'est bien la première fois, hein. Vous l'aurez noté. Bonjour, je suis Stéphane Volant, je suis le président de Smovengo et j'ai le plaisir d'être accompagné par quatre collègues, dont deux responsables de la qualité client. C'est comme ça qu'on dit, Karine ? Ouais. Voilà. Donc Karine et Sandrine s'occupent au quotidien des clients, des usagers clients, des utilisateurs, des abonnés. Stéphane Puccini est la star du jour, parce que c'est lui qui s'occupe de l'opérationnel. Et donc c'est lui qui, avec ses équipes, ou plutôt ses équipes et lui, sont en train de décoller les autocollants dégueulasses, pas au sens saleté, si aussi au sens saleté, mais qui recouvrent nos garde-boue, dégueulasses sur le fond. Je ne comprends pas qu'en République, aujourd'hui, en 2023, on puisse encore dire autant de conneries. Mais par ailleurs aussi dégueulasse sur la forme, c'est-à-dire que c'est un papier extrêmement fin, avec une colle extrêmement résistante, et donc pour les enlever, c'est une croix. Alors tu étais déjà sur le podium la dernière fois, tu l'es depuis ce matin de nouveau avec tes équipes, il vous en dira un mot, mais c'est vraiment le héros du jour, et ça mérite vraiment votre attention. Il vous dira comment on entretient la flotte, y compris en période de crise, et nous sommes de ce point de vue-là, en période de crise. Et puis Nicolas Bouteau, qui est le directeur du marketing et de la com, qui est là d'habitude et que vous verrez régulièrement, en même temps que le directeur général de Smovengo, qui s'appelle Jacques Greveldinger, qui d'habitude est ici, et je crois que vous avez déjà rencontré au moins une fois, et qui normalement est là avec son équipe. Je le remplace au pied levé parce qu'il lui arrive de prendre des vacances, et c'est sa semaine de vacances. Voilà. Et de façon très particulière, je vous dis juste un mot de l'organigramme de Smovengo. C'est une boîte bizarre, et je vous dirai pourquoi, mais il y a un directeur général et un président. Le directeur général, pour faire court, il a des équipes et des usagers ou des utilisateurs. Moi, j'ai des actionnaires, et nous partageons en commun des usagers et des utilisateurs. C'est la partition des choses. Et donc, je vous dirai peut-être de façon un peu stratégique comment on voit le service. Et je vous disais que Smovengo était une boîte particulière, parce que si nous n'étions pas une boîte comme les autres, nous ne serions pas aussi militants sur les mobilités actives. Je n'aime pas le mot de mobilité douce, parce qu'on est plutôt actif que douce. On ne serait pas aussi militants et on ne serait pas extrêmement fiers aujourd'hui d'avoir un service qui est le premier service du monde, de façon très, très claire. Donc en France, on aime, je bossais à la SNCF pendant 20 ans, donc je sais qu'on adore détester ce qui fonctionne, et donc on aime détester Smovengo, j'ai pas de doute, mais de temps en temps, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules, et qu'on le veuille ou non, c'est le premier service du monde, le deuxième est en New York, qui a autant de vélos que nous, mais qui fait deux fois moins de courses, et qui s'apprête pourtant à doubler son service, parce qu'ils considèrent que faisant deux fois moins de courses avec le même nombre de vélos, leurs vélos sont déjà en surutilisation, en surchauffe, et on y reviendra parce que la qualité du service est une partie des choses que vous reprochez au service, est liée justement à la surutilisation, c'est ce que d'autres pourraient dire appeler la rançon de la gloire. Mais on n'est pas une entreprise comme les autres, aussi parce que si nous n'étions qu'une entreprise comme les autres, nous ferions des bénéfices. Et ces bénéfices, nous les partagerions en trois. D'abord, comme souvent, les actionnaires se servent les premiers. Ensuite, ils payent leurs collaborateurs, éventuellement ils les augmentent. Et enfin, ils investissent dans le service. Normalement, c'est la règle. Chacune et chacun d'entre vous sait que cette règle n'est pas toujours respectée, parce que parfois, il arrive que la part qui revient aux uns et aux autres n'est pas forcément égale ou même disparaît. Chez Smovengo, et je suis chargé de la relation avec les actionnaires, nous ne remontons pas de dividendes. Et tout ce que nous gagnons, nous le mettons soit dans le service en investissement, et nous venons d'investir à peu près 20 millions pour acheter un peu plus de 11 000 vélos, afin de satisfaire une demande faite par le SAVM, une demande justifiée de le SAVM de faire le plein du service, on y reviendra, pour acheter 10 000 vélos, et donc dépenser à peu près 20 millions d'euros. 10 000 vélos, ça veut dire 3 000 vélos de plus sur le service et faire le plein de 21 000, 21 500, je ne sais pas les calculs de la police et les organisateurs, on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, il y aura le plein de Vélib en 2024 si tout va bien. Et le reste, au-delà des investissements, c'est évidemment soutenir nos collaborateurs qui je vous encourage à venir un jour. Les portes vous sont ouvertes de nos ateliers. Et cher président, vous venez souvent, mais nos amis sont invités s'ils le souhaitent à l'occasion d'un... Vous êtes des... Il y a déjà une date ? Bah, voyez, je ne le savais pas. En tout cas, venez, vous verrez à quel point ils font un boulot formidable. Moi, ce que je voulais vous dire avant de passer la parole à mes collègues, c'est la chose suivante. Vélib, il y a quelques années, a été une intuition absolument géniale. Personne n'y croyait. Paris était probablement la première ville du monde à créer un service de vélo partagé en station. Ce n'était que Paris, et ce n'était que des vélos mécaniques, musculaires, on dirait. Quelques années plus tard, un nouvel opérateur est arrivé sur la base Smovengo, sur la base d'un nouvel appel d'offres, où là, ce n'était plus simplement Paris, mais également les villes de la métropole, et ce n'était plus simplement des VLS, mais aussi des VAE, des vélos à assistance électrique. Ça a complètement chamboulé le problème. En parallèle, la ville a décidé, avec certaines villes de la métropole, de construire, et elle avait raison, un paquet de pistes cyclables qui sont venues encourager les utilisateurs de Vélib à l'utiliser davantage. En même temps, la Covid est passée par là. Il s'est mis à faire de plus en plus chaud. Et aujourd'hui, le service est un succès. On est là pour se dire les choses. Donc vous allez probablement me dire qu'il y a des tas de trucs qui ne vont pas et qui méritent d'être améliorés. Et vous verrez que mes collègues ne sont pas dans le déni. Donc on voit bien tout ça. Et on a une énorme envie de résoudre le problème. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec une flotte de 20 000 vélos, nous faisons... Je parle sous ton contrôle, Nicolas, une centaine de milliers de courses par jour, 90 000 ?
Là, en ce moment, on fait
190 000. 190 000 courses par jour, avec combien d'utilisateurs différents chaque jour ? 100 000 ? 90 000 ? Voilà. Et 400 000 abonnés. 20 000 vélos, 400 000 abonnés. Je vous dis ça parce que je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ça veut dire que si 10% des seuls abonnés réclamait un vélo aux heures de pointe, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la flotte n'est pas suffisante. Quand je dis c'est la flotte de vélos, le nombre de bornettes et le nombre de stations ne sont pas suffisantes pour satisfaire cette demande. Donc on a un problème d'explosion de la demande et pour le moment d'une offre qui reste encore extrêmement concentrée. Ce qui veut dire que nos vélos, et vous reviendrez probablement... Le président Réfaux vous en parlera sur un audit qui vient d'être fait et qui met de l'eau au moulin de notre réflexion. Nos vélos, et l'audit vient de le constater, qui sont vendus peu ou prou pour entre 4 et 7 utilisations par jour, 4 ou 7 utilisations par jour, tangentent parfois la vingtaine d'utilisations par jour. Il est clair que quand un vélo qui est vendu pour 7 utilisations est utilisé 20 fois, je parle sous votre contrôle, Stéphane. Il est clair, évidemment, que le vélo, il est à bout. Sa batterie n'a pas le temps de se recharger. Ses freins ne sont pas terribles. Ses pneus sont moyens. L'état de la selle est bof. Bref, je vous passe ces détails que vous connaissez par cœur et qui pourrissent l'image du système et pourrissent probablement votre vie d'utilisateur. En tout cas, on a un contrat dont on est très, très fier. Parce que c'était pas gagné, parce que les débuts ont été difficiles, pour mille raisons que j'ignore et sur lesquelles je ne reviendrai pas, parce que je n'étais pas président de Smovengo au moment du passage du premier opérateur au second. Ce que je peux dire qu'aujourd'hui, c'est que d'abord, nous avons des relations apaisées avec le SAVM, constructives. Le SAVM est un interlocuteur délicat, difficile, qui relève au... je ne le regarde pas trop, parce que je pense qu'il doit se reconnaître dans ce parquet, dans ce tableau. Exigeant. Mais il a raison de l'être. Il a raison de l'être. Nous ne sommes pas au rendez-vous de toutes les promesses. Et nous avons plein d'explications, plein de justifications. On y viendra. Nous avons plein de projets également pour essayer d'arranger le job et le service, pour l'améliorer. Mais il est clair que je ne vous promettrai pas le grand soir demain, parce que même avec 3000 vélos de plus... Même avec 21 000 vélos disponibles chaque jour, et quand bien même on en aurait 25 000, que de toute façon, avec le nombre de clients qui augmente chaque semaine, pour tangenter les 400 000, faites le ratio vous-même, on génère de la frustration. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'attaquer au problème, mais moi je vise une plus grande ambition pour Vélib, c'est mon rôle que d'adresser une stratégie. Je suis évidemment dépendant pour ça de mon donneur d'ordre, du SAVM, des villes qui sont membres du SAVM et qui doivent m'accompagner si elles le souhaitent, si elles le peuvent, parce que tout ça n'est pas gratuit. Et donc il y a des priorités qui ne m'appartiennent pas de définir. Mais en tout cas, si elles le peuvent et si elles le veulent, partageront peut-être avec moi une grande ambition d'un Vélib avec encore plus de vélos, encore plus de stations, des stations peut-être mieux réparties, plus de bornettes à certains endroits. On a un plan sur 1500 bornettes qui va arriver. Et donc, il faut que c'est un grand tous ensemble que je vous propose, auquel je vous propose de participer. J'ai l'impression, on m'a vendu cette réunion comme le Parlement de Vélib. Donc, je ne sais pas s'il y a une gauche, s'il y a une droite, s'il y a des insoumis et des conservateurs, s'il y a des scrogneugneux qui vont m'engueuler et des moutons qui vont rien dire et rien faire. En tout cas, je vous dois des comptes. Et merci, cher Sylvain, de m'avoir invité à cette réunion. Et je laisse la parole à Nicolas ou à mes collègues. On fait le tour de table. Je suis pas sûr qu'il faille rentrer dans le détail des documents qu'on vous a présentés, puisque, comme l'a dit le président Réfaux, ils sont dans votre dossier. Donc normalement, ils sont connus ou vous pourrez les lire. Et le plus vite on sera aux questions et aux réponses, le mieux. En tout cas, moi, j'aurai l'impression d'avoir fait le job et d'avoir fait moisson de ce qui remonte régulièrement au service client. Il paraît que le service s'améliore, mais quand je le dis, on ne me croit pas. Donc vous avez probablement des élans de sincérité. Et en tout cas, rien n'est parfait. Je ne vous promets pas le grand soir, mais je vous promets vraiment que quand on se compare, on se rassure. Et encore une fois, le numéro 2 s'appelle New York. Autant de vélos, deux fois moins d'utilisateurs, et ils vont doubler la flotte. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Alors évidemment, je vois certains qui disent « Mais nous, on s'en fout, on n'est pas à New York, donc on est à Paris ». Ok, très bien, comparaison n'est pas raison. Mais regardons quand même ce qui se fait ailleurs. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on reste sur le podium de tête et que, dans le contexte constructif qui est le nôtre, on arrive à améliorer ce qui ne va pas et à capitaliser sur ce qui va bien. Voilà. Pardon, j'ai été sans doute un peu trop bavard dans cette introduction. Mais je voulais vous dire un mot avant de passer la parole à mes collègues ou de vous passer la parole sous le contrôle du président de séance.
Merci beaucoup, monsieur Volant. Ce que je propose, c'est qu'on déroule quand même ce qui a été préparé par les équipes de Smovengo, parce que je pense que c'est important quand même de pouvoir fixer un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement du service. Je pense qu'on comprendra mieux quand même, malgré la clarté de votre explication, si on peut passer en revue ce qui a été préparé jusque-là. Je ne sais pas qui prend la parole sur ces questions. Non. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on ne fait pas le tour de table des usagers, parce que vous êtes très nombreux. Mais du coup, chacun prend la parole, s'il peut se présenter, c'est bien. Voilà. Mais on va aller directement sur la présentation et puis les questions qui seront ouvertes très rapidement.
Allons-y. Bon, ça, on va le faire rapidement. Vous le savez, contrat de 15 ans jusqu'au 31 décembre 2032. L'émission Smovengo, c'est l'installation et la mise en service des stations, régulation et maintenance du parc, communication, marketing, événements, relations clients, facturation. Tout cela, bien évidemment, pour le compte du SAVM. Et puis, le développement, système informatique, et puis le suivi du vélo, etc. Service technique. La rémunération de Smovengo, ça vous le savez probablement, c'est une partie fixe et un intéressement aux recettes, puisque les recettes, nous les collectons pour le compte du SAVM. Ce qui fait partie des réponses, d'ailleurs, que le SAVM a apportées. Et voilà, je pense qu'on peut avancer, parce que ça, tout le monde le sait, on est sur un territoire de 450 km² et il y a 40% de vélos électriques aujourd'hui. Voilà. Des stations en construction, il y en a toujours. On en est à 1462 stations actuellement mises en service. On poursuit les développements hors Paris. Et comme mentionné tout à l'heure, effectivement, par Stéphane Volant, il y a aujourd'hui 1500 bornettes supplémentaires qui doivent être commandées prochainement pour pouvoir en partie compenser justement la pression sur les stations à l'intérieur de Paris. Il me semble qu'il y a 75 stations concernées, non, une centaine de stations concernées. C'est ça, et ça fait une quinzaine de diapasons supplémentaires sur les stations qui sont le plus soumises à de la pression, et ce qui va nous permettre de bien améliorer le système, je pense. Mais c'est bon. Alors, on arrive sur Smovingo, son équipe, son engagement. On a près de 500... Hein bon, c'est pas grave. On a près de 500 collaborateurs dédiés au service Vélib Métropole. Tiens, vas-y. Tu veux en parler un petit peu, les ateliers, le terrain.
Alors, grosso modo, 500 personnes qui travaillent pour le service Smovingo. On a sur l'exploitation pure les personnes que vous voyez sur le terrain pour réparer les vélos en mécanicien itinérant. Ils sont de l'ordre de 200. N'oubliez pas que nous travaillons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Évidemment, pour les nuisances sonores, on ne va pas faire de la maintenance itinérante la nuit. Donc, elle est vraiment concentrée en journée. Sur les ateliers dont on a sur Villeneuve-la-Garenne et Alfortville, on a 200 collaborateurs concernés sur le sujet. Et je vous rentrerai un peu plus dans le détail sur les différentes sectorisations qu'ils effectuent dans les dépôts.
Voilà. Et puis, toutes les fonctions support qui sont dans les bureaux, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça, parce qu'avant tout, ce sont des opérationnels. Et le service de relations clientèle, bien évidemment. Peut-être si on passe au slide suivant, parce que justement, là, ça explique un petit peu mieux les actions terrain qui sont faites par les opérations. Grosso modo, vous avez un jour normal à peu près 1000 vélos réparés par jour. En ce moment, c'est plus que ça, puisque la semaine dernière, par exemple, il y a eu 9200 vélos réparés, donc il y en avait 4200 qui étaient réparés dans les ateliers. Ça veut dire 4200 vélos qui ont été enlevés des stations dans la semaine et puis réinjectés 24 heures plus tard. Une fois qu'ils ont été réparés, le soir, bien évidemment, on va les réinjecter aux endroits où les stations sont vides, on ne va pas les mettre dans les stations pleines. Et en parallèle, il y a 5000 vélos qui ont été réparés directement sur le terrain, sachant sur le terrain directement, ce sont les réparations plus simples, ça va être réglage de selle, réglage de dérailleur, changement de chambre à air, les problèmes de feu, des choses comme ça. En dehors de ces opérations-là, il y a tout ce qui va être nettoyage des stations, maintenance des stations, parce qu'il faut aussi les réparer. Et puis, il y a à peu près 50 à 150 stations qui sont visitées par jour pour aller enlever les vélos qui sont en trop et les remettre sur des stations qui, elles, au contraire, ont des besoins. Et ce sont des stations qui se vident en permanence, parce qu'on le verra plus tard, il y a un slide spécifique sur la régulation. Il y a des stations qui ont tendance à s'équilibrer toutes seules, puis certaines qui se vident tout le temps et certaines qui se remplissent tout le temps. Et là, il y a besoin de compenser, notamment la nuit. Vas-y, tu veux rajouter un
peu. Oui, grosso modo, comme l'évoquait Nicolas, l'injection se fait énormément la nuit, évidemment pour des raisons de circulation qui sont les plus opérantes. La ramasse également. Donc il y a des indicateurs selon vos signalements qui sont bien pris en compte par notre équipe data et qui nous permettent de déterminer qu'est-ce qui va être traité sur station et remettre le plus important pour nous un objectif, le vélo disponible en toute sécurité et ceux qui nécessitent évidemment une maintenance beaucoup plus longue et en check sur les dépôts ateliers.
Voilà, le rôle des équipes terrain, je pense qu'on l'a déjà décrit, donc maintenance itinérante, la maraude qui est le fait d'aller ramasser des vélos en dehors des stations, ceux qui sont parfois abandonnés. Il y a des opérations spéciales, on vient d'en parler, hein, comme aujourd'hui, ou bien les manifestations. Il faut savoir que chaque manifestation, et il y en a eu quelques-unes encore cette année, quand on dit qu'une station est fermée, et d'ailleurs parfois on vous envoie de la communication là-dessus pour s'en informer, ça veut dire que les équipes sont venues la nuit précédente, sont allées enlever tous les vélos, un par un, sont allées mettre ce qu'on appelle des bloqueurs dans les diapasons, sur toutes les stations concernées. Donc quand on se retrouve, alors à l'époque des Gilets jaunes, parfois c'était 200 stations, là maintenant c'est plutôt quelques dizaines, mais ça veut dire un travail considérable qui est fait, et pendant ce temps-là, on ne peut pas forcément faire autre chose, parce qu'on est mobilisé pour aller immobiliser ces stations-là, et la nuit d'après, il faut revenir au même endroit, enlever tous les débloqueurs et ramener des vélos. Et puis toutes les petites opérations, comme aller décoller des stickers.
C'est très important ce que vous évoquez, Nicolas, parce que concrètement, on perd de la station, et surtout du vélo disponible pour vous. Ça, évidemment, le process est fait par réquisition de la préfecture police de Paris et dans l'absolu on essaie de faire au mieux, mais imaginez aisément dans quel contexte on a commencé le début de l'année. Alors, en effet, on avait des manifestations bien prévues, mais n'oubliez pas qu'on s'est beaucoup été enquiquiné avec les manifestations sauvages et les départs de feu et tout ce qui allait avec. Donc, un vrai impact. Les équipes ont été mobilisées sur le sujet. Il est clair qu'on a, et on peut être très transparent sur ça. Les manifestations sauvages, les équipes de nuit qui font un 20h, 6h sur le terrain, a été pris un engagement, c'est qu'on on intervenait quand même sur Paris après 1h du matin pour pouvoir vous donner le maximum de disponibilité. Donc ça n'a pas été évident parce que je vous rappelle que nos véhicules sont quand même mi-gaz, mi-essence, GNV, il n'y a pas de débat là-dessus, mais qu'en aucun cas je n'aurais mis la sécurité de mes collaborateurs avec éventuellement un cocktail Molotov ou autre. Donc socialement ça a été très, très compliqué, mais tout le monde a été bien impliqué pour pouvoir donner la qualité de service qui était due. Et n'occultons pas le sujet des poubelles, qui était aussi exceptionnel.
Voilà, donc diverses opérations. Et après, la régulation, il y a un slide dédié. Chaque nuit, il y a des vélos qui sont sur les stations considérées comme trop pleines ou il y en a d'autres qui sont trop vides. Et puis, il y a des déplacements qui sont effectués. En parallèle également, quand on récupère des vélos pour les réparer, ben, c'est pareil, on va les remettre dans des stations vides le lendemain. Et puis, il y a... là, on parle de la ramasse. Enfin, la ramasse, c'est ce qu'on réinjecte le lendemain. Voilà, c'est un peu un gros mot, la ramasse. C'est le terme qu'on utilise. Différents profils de stations. Donc là, on y arrive. Qu'est-ce que c'est la régulation ? Ben, vous avez une régulation naturelle. C'est-à-dire que normalement, vous avez plein de stations qui vont se remplir à certaines heures de la journée, qui vont se vider à d'autres. Et puis finalement, elle n'est jamais complètement vide, elle n'est jamais complètement pleine, et tout va bien. Pour info, quand même, il y a des moments, il y a des pics d'activité, notamment le matin, où vous avez jusqu'à 5 Vélib qui sont déplacés par seconde. Et en fait, il y a une espèce de vitesse de vidage et de remplissage de certaines stations, excusez-moi les termes, qui fait qu'entre 8h et 9h, par exemple, vous avez des arrondissements entiers qui se vident et vous avez des arrondissements entiers qui se remplissent. Allez vouloir réguler tout ça en mettant des camions derrière chaque cycliste, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on a des heures où la circulation des camions n'est pas simple. On n'a pas le droit de passer par les voies de bus, il faut passer par les voies normales. Et le temps d'aller du 20e, par exemple, jusque dans le centre de Paris, récupérer les vélos, les ramener de l'autre côté, en fait, on a passé le pic. C'est-à-dire qu'on a passé, c'est comme une marée. Vous avez des déplacements de vélos qui partent notamment de l'extérieur de Paris et qui viennent vers le centre le matin. Et puis le soir, ça repart dans l'autre sens. Alors sur beaucoup de stations, ça se régule naturellement, il n'y a pas de problème. Et puis vous avez 100 à 200 stations qui régulièrement se vident et ont tendance à se vider tout le temps et à finir vides. Et d'autres qui au contraire se remplissent et qui ont tendance à trop se remplir. Et là, il faut intervenir, mais en journée, c'est plutôt complexe. C'est pour ça qu'il y a très peu d'opérations qui sont faites la journée maintenant. Et c'est essentiellement la nuit où on va aller faire de la régulation comme ça, manuellement, en allant ramasser des vélos de certaines stations vers d'autres. Alors là, derrière, pourquoi on va choisir certaines stations et pas d'autres? Et pourquoi il y a certaines stations, parfois, qui ne sont pas traitées alors qu'on s'occupe de celles d'à côté? C'est parce qu'on raisonne par grappe et que, pour essayer d'être le plus efficace possible, si vous avez un réseau de 3 stations, mais qui sont distantes dans le centre de Paris, hein, parfois de 100 mètres, on va s'assurer qu'il y en ait une qui soit parfaitement achalandée, quitte à parfois délaisser les deux autres, parce que sinon, ce sont des secteurs entiers qui risquent d'être laissés pour compte. Mais on aura l'occasion d'en revenir dessus, parce que je pense que vous aurez plein de questions sur comment ça fonctionne. Il y avait un mot que tu voulais rajouter là-dessus.
Non, c'est bon.
Sur la régule, moi je voudrais revenir dessus, parce que c'est un truc qui ne vous fait pas plaisir, et moi non plus. Je ne suis pas content de la qualité de la régulation. J'ai pas besoin que vous me le disiez, même si on va probablement en reparler, ni que le SAVM relève vos problèmes. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais je vous annonce que ça va pas forcément s'arranger demain. Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément très content. C'est-à-dire que j'ai acheté, pour votre compte, un peu plus de 10 000 Vélib, pour en avoir 3 000 de plus sur le réseau en 2024. 3 000 de plus... Si je n'ai pas de bornettes supplémentaires dans certaines stations qui dégueulent de vélos à 10 heures, si je n'ai pas de stations supplémentaires dans certains endroits où il y a des besoins, je vais dégrader encore un petit peu la qualité de la régulation. Parce que j'aurai plus de vélos, Et donc, à l'arrivée, j'aurai plus de stations qui dégueulent. J'ajoute que le problème de la marée que décrivait Nicolas Bouteau est exact. Mais on peut aussi gérer des marées d'équinoxe. Nous avons comme projet, et on peut comprendre l'intérêt, de mettre des stations à la Défense. Formidable, pourquoi les mecs de la Défense, les mecs et les nanas, pardon, n'auraient pas de Vélib. Alors moi, je vous annonce que si on fait ça sans avoir des vélos supplémentaires et les bornettes attendues, nous allons avoir une marée énorme qui va quitter Paris et la banlieue pour aller à la Défense. Et que nous n'aurons pas la possibilité dans la journée, voire même dans les deux heures qui justifient cet aller-retour, d'aller chercher cette marée de vélos à la Défense pour la ramener à Paris, sachant qu'il y a les travaux porte-maillot et que l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly est, me dit-on, l'une des avenues les plus fréquentées d'Europe. Donc attention, c'est extrêmement compliqué. Et nous avons fait le calcul le matin ou le soir, aux heures de pointe. Si nous voulions réguler en temps quasiment réel ces 5 vélib par seconde qui changent de station, il nous faudrait 300 camions. C'est beaucoup. Et 300 camions qui circulent dans les conditions de circulation du matin et du soir aux heures de pointe. Donc je ne suis pas sûr que ce soit même possible de faire cette régulation. Donc il faut qu'on compte sur la régulation naturelle, ce phénomène naturel de vélo. Et pour ça, probablement faudrait-il un jour que nous tendions vers beaucoup plus de vélos pour satisfaire cette demande très importante le matin et le soir, et que ce nombre de vélos très important s'accompagne évidemment d'un nombre de bornettes ou de stations encore plus important pour qu'à l'arrivée, ils puissent accoster convenablement. C'est pour ça que j'adorerais pouvoir vous dire que de façon très sensible, la régulation va s'arranger dans les semaines qui viennent. Je crains malheureusement qu'en dépit de nos efforts, des bornettes supplémentaires, 3000 vélos de plus, ça ne s'arrange pas. On va tout faire pour que ça ne se dégrade pas, déjà. Mais c'est déjà une gageure de déplacer tous ces vélos dans la journée, et je ne vois pas comment on pourrait y arriver dans l'espace-temps des heures de pointe le matin et des heures de pointe le soir, sans cette régulation naturelle avec plus de vélos, plus de bornettes. Voilà, pardon de plomber l'ambiance. Madame, je suppose qu'il y aura des questions derrière. Je peux pas... oui, à la fin. Mais je voulais vraiment insister là-dessus pour que chacun comprenne bien l'état de notre réflexion. Ça doit s'améliorer. Ça s'améliorera. Mais il y a des présupposés. Et de toute façon, c'est pas pour tout de suite demain. Malheureusement. Malheureusement.
Bien, merci Monsieur Volant. Je pense que ce que vous venez de dire mérite quelques réflexions complémentaires. Je propose qu'on les partage ensemble. Ce que je propose, c'est qu'on finisse la petite séquence là sur les questions de moyens. Je crois qu'il y a deux transparents et ensuite on peut ouvrir la discussion et notamment sur cette question de régulation qui est évidemment centrale dans nos discussions. Je dis juste un truc. C'est qu'aujourd'hui, enfin, qu'il y a une question de moyens aussi qui est accordée à cette activité. Voilà, je n'irai pas jusqu'à 300 camions, mais je pense qu'on peut espérer aller au nombre de camions qui était prévu par le contrat. Je vous laisse continuer.
L'économie solidaire, notre sujet. Je vais aller vite là-dessus, mais 200 000 heures de réinsertion, effectuées chez Smovengo depuis 2018. On a une centaine de personnes qui ont été accompagnées vers un retour à la vie active. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de notre côté. Il faut rappeler que l'électricité qui recharge les vélos électriques dans les stations, c'est de l'électricité donnée pour verte, en tout cas achetée comme telle. On a une flotte de, alors c'est plutôt 75 véhicules qui sont hybrides électriques ou hybrides gaz. Et surtout, ce que l'on a mis en place... Alors, je crois que c'est précisé un petit peu plus tard, mais on s'est retrouvé il y a quelques années avec la Covid, à une limitation des difficultés d'approvisionnement des pièces détachées qui nous causait un embarras. Et on s'est dit, bon, soit on va chercher d'autres fournisseurs. Vous savez, il n'y a pas de secret. Même quand vous voyez des vélos made in France, creusez un peu et vous verrez que simplement 50% du vélo est fait en France, essentiellement la partie assemblage. Mais vous avez des pièces avec des fabricants comme Shimano ou les fabricants de pneus, entre autres, qui sont de toute façon en Asie, quelle que soit la marque de vélo. Et nous, Shimano, par exemple, est un gros fournisseur pour nous parce que c'est la seule boîte qui soit capable de répondre à nos demandes et qui soit suffisamment industrialisée pour répondre aux demandes, d'ailleurs, de toutes les flottes de véhicules au monde. Et donc, vous aviez certains composants qui devenaient compliqués à obtenir. Après, on avait le choix. C'était soit on trouvait d'autres fournisseurs, mais qui n'étaient pas forcément locaux non plus, parce qu'il n'y avait pas d'offre locale pour ces pièces-là. Soit on se mettait vraiment en ordre de bataille et à industrialiser la réutilisation de nos pièces. Et aujourd'hui, on a 25 à 30 personnes qui ne travaillent que à remettre en état les pièces et à s'assurer qu'on puisse les réutiliser plutôt que d'aller recommander systématiquement des pièces qui viennent de l'autre bout de la terre. On a créé une ligne de production de roues pour être nous-mêmes quasiment autonomes sur la fabrication de nos roues. Alors on réutilise parfois, par exemple, le moyeu central de la roue, on coupe le reste. Si on peut réutiliser nos chambres à air, on les fait refaire par un ESAT qui est pas très loin de chez nous, qui répare nos chambres à air et puis on les réutilise. On réutilise tout ce qui peut être réutilisé, bien évidemment dans les conditions de sécurité, on reteste, on vérifie tout. Et ça nous permet comme ça de jeter le moins possible, de réutiliser au maximum. Et également, Smovingo est devenu depuis l'automne dernier, a été labellisé fabricant de vélos. Et donc on fait des vélos made in Villeneuve-la-Garenne qui sont en partie avec des pièces neuves, bien évidemment, souvent les cadres, et après le reste, bah, c'est des pièces qu'on peut réutiliser, qu'on remet à neuf, qu'on a fabriqué nous-mêmes, par exemple les roues, etc. Voilà, c'était un petit point que je pense qu'il est important de savoir et qui est propre à Smovingo. Voilà, bon là vous avez un petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Et après, quelques chiffres sur Vélimétropole.
Pour après, si vous voulez. Okay. D'accord. Ouais, on peut faire une petite pause à cette étape-là. Allez-y. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. Je vous demande de vous présenter.
Oui, bonjour. Nicolas, du coup,
Ça, sans vouloir être très indiscret, mais où est-ce que vous habitez?
Oui, pas de souci. J'utilise le service principalement pour aller travailler et j'habite dans le 15e. Donc, je ne sais pas si c'est possible de remettre le slide avec la petite carte. J'ai deux questions, du coup, j'en profite. La première question, je suis évidemment victime de la trace de points, là, en bas à gauche de Paris. Par contre, j'ai une question. Alors, c'est excédentaire chronique et je suis 100% en phase. Par contre, très sincèrement, où sont les villes électriques? Ce que là, alors, de mon expérience, ils ne sont pas dans le 15e Sud. Enfin, en tout cas, pas dans le... Voilà, peut-être, mais voilà. Bon, je sais pas si c'est... Enfin, je vais pas vous demander de refaire les slides comme ça, mais il serait peut-être intéressant de repartager peut-être la même chose, mais avec les vélos électriques mécaniques, parce que, voilà, ça montre un truc, c'est bien, mais en tout cas, personnellement, trouver même à 8 heures un vélib électrique, donc, électrique. C'est compliqué. C'est, voilà, il y a des stations pleines, et zéro... Enfin, voilà, il y a 60 vélib, on est heureux. Mais aucun électrique. Donc, je pense qu'il y a, vous avez peut-être un problème de régulation globale, mais il y a aussi sans doute un problème de régulation qui sera intéressant de présenter aussi sur la répartition entre électrique et mécanique. Je pose ma deuxième question et je vous laisse répondre. Ah, pardon.
Allez-y.
Non, ma deuxième question, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Est-ce que c'est normal que les véhicules de vos techniciens stationnent sur les pistes cyclables? Alors, la réponse du technicien a été oui, tout à fait, on a le droit. Personnellement, je suis perplexe. Je profite donc de cette assemblée pour vous poser la question.
Pour ma part, je confirme qu'aucun véhicule n'est autorisé à se stationner sur les pistes cyclables, pas même ceux de Vélib, et j'ai envie de dire surtout pas ceux de Vélib.
Donc, les invectives que j'ai reçues n'étaient pas tout à fait justifiées.
Du tout justifiées.
Non, on est bien d'accord. Nicolas, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je me posais la question de... la pertinence de ma présence ce soir, mais super intéressant rien que la première question. Et peut-être une étude à avoir de façon plus générale, parce que c'est vrai que, pour grosso modo, quand le vélo a été traité dans l'atelier dans la journée, il y a peut-être une étude à faire un peu plus poussée pour savoir si on peut optimiser en tout cas notre injection de régulation sur les stations du 15e et banlieue sud. Et j'y reviendrai un peu plus tard, puisque on est dans un échange participatif avec le SAVM sur ce sujet-là, avec une réunion quotidienne tous les mercredis après-midi, mais je reviendrai. Concernant la deuxième chose, en effet, un peu perturbé par ce que vous m'évoquiez, Je me tiendrai à votre disposition pour si vous avez des éléments complémentaires à me donner. Mais non, il y a la sécurité. Il n'y a aucune raison qu'on soit sur les pistes cyclables. On représente la mobilité douce dans Paris. Donc non, c'est pas, ça ne fait pas partie des valeurs et, qu'on a chez Smovengo. Donc, et en plus, si on vous répond à ça, ça me pose un léger problème. Et en règle générale, je ne suis pas très tendre avec ça. Je suis pas un mille collaborateur.
Merci de cette réponse très claire. Alors,
tout petit complément, Monsieur le Président, sur cette question. Je vous ai dit que on avait peut-être un nombre insuffisant de vélos, de bornettes et de stations. Mais par ailleurs, il s'avère que parmi la révolution des usages que nous constatons depuis que nous gérons ce contrat, c'est un engouement exponentiel pour le vélo à assistance électrique. Donc, prenant cette conséquence, ce fait-là en main, le SAVM nous a demandé de rééquilibrer notre contrat. On est à 40% de VAE et à 60% de VLS. Mais peut-être que, au long du contrat, à la demande du SAVM, car c'est son autorité, nous aurons à rééquilibrer, à mettre 50 ou 60%, parce que c'est vraiment un engouement pour le VAE. On peut comprendre pourquoi, par rapport au VLS.
Bien, merci beaucoup. J'ai vu énormément de mains se lever et donc tout le monde va avoir la parole, ne vous inquiétez pas. On va commencer par monsieur après madame.
Oui, bonjour, Tanguy, je vis à Stalingrad, dans le 19e arrondissement. Tout à l'heure, vous avez évoqué le chiffre, je crois, de 200 stations visitées par vos mécaniciens en journée. Alors, Nicolas, dans sa question, manifestement, on voit, ouais, puisqu'il se plaint du fait que des gens se garent des fois devant la station. Moi, je suis assez étonné de ça, parce qu'en 3 ans, et vivant au-dessus d'une station qui est supposée être assez fréquentée, je n'en ai jamais vu. Et inversement, j'ai quelques copains à Paris qui sont contraints de conduire une voiture en journée. Ils se plaignent des bus, ils se plaignent des trams, ils se plaignent des camions, de tout et n'importe quoi. Ils ne se sont jamais plaints d'avoir vu un camion Vélib à une station bloquer la circulation, bloquer un passage piéton, quoi que ce soit. Donc je me demande comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à l'entretien des vélos en station, d'autant plus que je pense qu'on a déjà tous observé autour de cette salle ce phénomène de vélo ventouse, alors qui c'est un peu moins le cas ces dernières semaines, j'avoue, mais moi là, ça fait à peu près 2 mois et demi, 3 mois que j'ai une borne à ma station en bas de chez moi qui est condamnée. Donc je ne sais pas ce qui se passe exactement, quel est le plan suivi, est-ce que les mécaniciens l'ont remarqué. Même chose avec les vélos ventouses, des fois on observe pendant 10 jours, 2 semaines, voire 3 semaines, ça a été le cas, des vélos complètement déglingués qui ne sont pas retirés par les mécaniciens. Donc comment est-ce que exactement les plans de tournée, s'il y en a, enfin comment ça marche au juste?
Bien, je vous propose de prendre plusieurs questions parce qu'il est presque 20h30. Et donc, je propose de prendre plusieurs questions en même temps. On va faire toute la rangée là. Vous répondez, après on fait toute l'autre rangée. D'accord? Alors, et dans l'ordre de placement, donc madame, allez-y. Ah bah, comme vous voulez. Allez-y, madame.
Pas de souci. Donc, Cindy, je habite dans le 13e à Glacière. Moi, j'avais plus une question d'ordre général. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les concurrents qui, eux, n'ont pas de bornes? Voilà.
Merci beaucoup. Allez-y, madame.
Oui, bonsoir, Alistair. Merci pour votre présence. J'ai vu qu'il y avait 6000 signalements par jour, si j'ai vu ça correctement. Et je me demande si Smovengo est dépendant de ces signalements pour trouver les vélos pour réparer et prendre ses vélos pour réparer, ou officiellement les sièges tournés, ça signale et c'est bien connu comme un signalement, parce que parfois il y a des plaintes par les gens disant mais les vélos ne marchent jamais, mais je pense que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui signalent que ça ne marche pas, et il y a quelqu'un après eux qui prend le même vélib et il y a un problème de frein, et c'est un vrai problème, mais si la personne avant eux, ils n'ont pas signalé, je me demande est-ce qu'il y a vraiment un moyen pour vous en tant que réparateur de savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Merci.
Merci beaucoup. Alors on continue dans la rangée. Monsieur.
Bonsoir, je m'appelle Lambert, j'habite dans le 19e arrondissement et je suis consultant en communication. Et donc, il s'avère que je conseille des gens comme Smovengo, par exemple. Et donc, j'ai bien compris, je le paie pas vous, hein, vous inquiétez pas. Et donc, j'ai bien compris la stratégie de communication qui est la vôtre, puisqu'avant, et j'imagine, enfin, on avait suivi les actualités, vous étiez dans l'explication et quelquefois un peu dure avec le syndicat. Et puis maintenant, vous êtes dans une stratégie que je conseille également à mes clients parfois, de contrition et de proximité avec le client. Mais en même temps, je trouve que ça marche bien, donc vous inquiétez pas. Vous êtes dans la proximité, le dialogue, et on ne peut que louer cela. Toutefois, j'ai une petite question, et non pas, alors peut-être pratico-pratique, mais un peu sur l'industrialisation et finalement sur le contrat en tant que tel. Est-ce que finalement, on a bien saisi votre message, qui est en fait que ça ne s'améliorera pas, mais parce que voilà, c'est aussi le côté positif, hein, tout le monde l'utilise, enfin. Pas de suite, disons. Et de toute façon, je crois qu'on est tous ici utilisateurs depuis quelques années. C'est pas folichon non plus. Et donc la question est celle-ci. Est-ce qu'il y a une mauvaise explication peut-être entre industriels et l'autorité publique à la base dans ce contrat? Une question de moyens financiers, j'entends parfois, ou alors finalement est-ce que Smovengo, Jeanne Montpellier, donc j'apprécie la méridionalité de votre entreprise, mais en fait n'avait tout simplement, et je me le permets, pas les reins assez solides pour finalement faire face à ce contrat. Merci.
Merci de cette question très claire et du conseil de communication distribué au beau passage. Allez-y, madame.
Bonsoir. Hop, c'est un peu plus facile. Elisabeth, j'habite dans le 13e pour aller dans le 17e au travail. J'ai une problématique plutôt, c'est au début de la première slide, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi le fait d'augmenter le nombre de stations en dehors de Paris va faire diminuer la pression au niveau de Paris. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une problématique pour réguler, pour avoir une qualité de service à l'heure actuelle avec le nombre de stations actuelles. Alors pourquoi ne pas investir plus dans des bornettes déjà sur les stations qui existent actuellement et pourquoi se dépêcher de multiplier les stations en dehors de Paris? Ben oui, non mais peut-être, mais si ça ne fonctionne pas. Non mais je suis d'accord, non mais c'est peut-être pas politique, mais si ça ne fonctionne pas. Je veux dire, au bout d'un moment, parfois, il faut peut-être s'arrêter, faire un point diagnostic, résoudre les problèmes et après se développer, plutôt que de développer de façon anarchique dans différentes stations et peut-être augmenter le nombre de problèmes avant de les avoir résolus. Merci.
Merci beaucoup pour cette expression qui rejoint les préoccupations de certains membres du bureau. Mais bon, je vais y répondre sur cette question-là.
Alors moi, j'adore le président. J'adore les conseillers, moi. J'aime bien votre commentaire. Alors moi, je comprends rien. On est les premiers. Moi, j'ai envie qu'on soit les super premiers. J'ai pas envie de 20 000 Vélib. J'en veux 40 000. J'en veux 400 000, moi. Parce que je comprends le monsieur qui habite en banlieue. 20 000, vous me dites des chiffres. J'ai plein de chiffres. 100 000, 180 000, etc. Donc, on s'adresse à une population, en tout cas, de Paris, 2 millions et de 12 millions de personnes. Et on me parle de 20 000 vélos. Donc, votre ambition, elle est très belle. Mais moi, je dis, mais c'est pas 20 000 que j'en veux. Vous me parlez, vous me dites, ah ouais, on va en avoir 3 000, c'est super, c'est génial, on va avoir 300 camions qui vont circuler. Alors moi, je dis simplement, comme j'écoute, hein, c'est un dialogue, et sur la régulation, les bornettes, alors il y en a à Sceaux, etc., mais une bornette, ça coûte combien d'installer une bornette? C'est quoi? Ça coûte combien une bornette? À peu près. À peu près, à 2000 euros, 3000.
Attendez.
Ah, pardon.
On fait toutes les questions, après on fait toutes les réponses.
OK. Donc, une bornette, ça vaut combien? Un vélo, ça vaut combien? Voilà, des questions très pratiques. Parce que moi, je voudrais un plan. Mais alors, on est des citoyens. Moi, j'utilise tout le temps le Vélib. On a tous les problématiques. OK. Et je finis là-dessus. Et à un moment donné, faisons 400 000 vélos dans la région parisienne, ou 40 000. Votre ambition, elle est absolument ridicule par rapport... Allez, et dernier truc, il y a beaucoup de touristes à Paris, et il y a aussi des clients, parce que vous êtes des commerçants. Moi, j'adore le service public, je suis à 100% pour le service public. Vous êtes du privé, vous êtes là pour gagner de l'argent. J'ai compris simplement que le président, ben, il disait, on fait de l'investissement. Alors, faites de l'investissement, Et à ce moment-là, on en a 40 000. Et politiquement, nous sommes des citoyens. On vous soutiendra, on soutiendra le syndicat. Et j'ai fini. Excusez-moi.
Merci beaucoup. C'est très clair. Alors, attendez. Ce que je propose, c'est qu'on fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur cette rangée-là qui souhaite prendre la parole ? Alors, allez-y, rajoutez quelque chose. Après, on fait les réponses et après, on fait toute cette rangée. Ça vous va ?
Au monsieur avec sa veste bleue qui a pris la parole en premier, le président de Smovengo, monsieur dont j'ai oublié votre nom. Monsieur Volant, oui. Par ici, je suis là. Vous avez évoqué la régulation à partir des mouvements tôt le matin, entre 8h, 9h, 10h. Très bien. Mais il y a une vie au-delà de 10h. Et en fait, le problème, c'est que ces stations qui sont pleines dans un périmètre assez central restent pleines toute la journée et font que des secteurs entiers sont, des secteurs entiers sont en permanence totalement dépourvus de Vélib. Moi qui vis dans le nord-est parisien, essayer de prendre un Vélib, qu'il soit manuel ou électrique, à midi, à 13h, à 14h, à 15h, dans un car qui va de Porte de la Chapelle au Lila et donc qui englobe Gare du Nord, Gare de l'Est, Stalingrad, vous n'avez à rien. Et il n'y a pas un chat qui bouge, quoi. Donc, d'où la question. Je peux comprendre qu'on ne pourra rien faire pour contenter tout le monde entre 8h et 10h. Mais il y a vraiment une vie en dehors de ces horaires, quoi. Et c'est là que quand on voit que les stations dans le centre, en bas de la rue Lafayette, sont tout le temps pleines jusqu'à 16-17h, alors qu'il suffirait de remonter la rue Lafayette pour recharger Gare du Nord et Gare de l'Est, on se pose des fois des questions sur la régulation, quoi. Merci.
Bien, merci beaucoup. Il reste une question de ce côté-là, madame.
Oui, donc Alette, je suis de Cachan. Je représente quand même la banlieue un peu. Une seule question. Quelle est la durée de vie d'un Vélib électrique et d'un Vélib pas électrique ?
Bien, alors voilà une série de questions. Je propose une série de réponses sur ces différentes questions. À ce stade.
Moi, j'ai été interpellé. Je suis pas sûr d'avoir eu un conseil en communication qui m'ait demandé de la contrition. Mais alors, vraiment pas. Et alors, ça doit pas du tout être l'avis du président Réfaut et de ses collaborateurs. Je vais vous donner un très bon exemple. Ça répondra à votre question et à la proposition de monsieur là-bas. Moi, j'ai de l'ambition pour Vélib. Je suis l'un des 12 acteurs de la filière économique du vélo en ce moment qui est en train de se constituer. J'ai pas qu'une voiture et un avion. Enfin, je ne circule pas qu'en voiture et en avion, pardon. Il y a de cela quelques semaines, je suis allé sur Europe 1 pour défendre ma boîte et défendre mon service. Parce que j'opère ce service. Il se trouve que, pour répondre à une des questions, au moment où on a dimensionné le service, on n'avait aucune idée de ce que serait le succès du VAE, aucune idée, dont l'un de nos amis tout à l'heure a dit « mais moi j'en voudrais un peu plus parce que je ne vois que des vélos mécaniques et insuffisamment de vélos électriques ». On n'avait aucune idée de ce que serait l'intérêt de nos utilisateurs pour le vélo électrique. Et par ailleurs, on n'avait aucune idée de ce que donnerait l'extension du périmètre de Vélib au-delà du périphérique, et encore plus aucune idée de ce que donnerait le développement exponentiel et la législation qui va avec pour favoriser les pistes cyclables et la faveur qu'on accorde aujourd'hui au vélo. Du coup, le marché, on peut toujours dire, ah ben, il était mal dimensionné il y a quelques années. Moi, je n'étais pas là. Je suis pas sûr que les gens autour de la table aient dimensionné le service à ce moment-là non plus. Donc, on peut tous plaider non coupables, même si on est tous solidaires. En tout cas, il n'y avait pas de boule de cristal. Et on est tous surpris par l'engouement du vélo électrique, de la banlieue et des pistes cyclables, qui font exploser le service. Et il y a quelques semaines, sur Europe 1, j'ai dit, mais moi, c'est pas 20 000 que je veux de vélo. C'est 40 000 ou 60 000. Je suis pas allé jusqu'à 400 000. J'ai dit 40 000 ou 60 000. Vous pourrez aller sur le net, vous m'entendrez. Je me suis fait engueuler. Pour une raison très simple. C'est qu'on n'avait pas bien entendu mon propos. J'ai dit, je voudrais 40 000. Ou 60 000 Vélib, je voudrais doubler ou tripler la flotte, mais ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les élus. Et je respecte leurs décisions. C'est eux qui font les arbitrages et qui font les choix. Et il se trouve que si j'avais les moyens, je ne les ai pas, mais si j'avais les moyens de mettre 60 000 Vélib, de toute façon, si la responsabilité de Smovengo est d'acheter des vélos, la responsabilité de Smovengo n'est pas d'acheter des bornettes et des stations. Donc il faudrait tripler ou doubler le nombre de bornettes et de stations. Et là, je me retournerai vers les élus en disant « Je ne mettrai les vélos que quand vous aurez à du prorata le nombre de bornettes et de stations voulues. » Mais c'est un choix politique. Il ne nous appartient pas. Je veux bien porter tous les péchés du monde, et notamment reprendre votre point qu'à certaines heures, qui ne sont pas les heures de pointe, il est scandaleux, il est pénible, il est chiant, il est tout ce que vous voulez, incompréhensible, de ne pas avoir de vélo du tout. Mais pour de vrai, sur le reste, oui, je vote pour. Je suis prêt à acheter 60 000 vélos si on me met les bornettes et les stations en conséquence.
Bien, je pense qu'on a compris votre point de vue, Monsieur Volant. Il y a un certain nombre de questions assez précises qui ont été posées sur les questions de régulation. Peut-être qu'on peut y venir et peut-être rester sur les réponses précises aux questions qui ont été posées.
Sur la régulation, place de Stalingrad.
Il y avait quoi ?
Est-ce que tu te sers des signaux signalements ?
Non, le signalement, c'est juste...
Les vélos ventouses, par exemple.
Alors... Les signalements, juste une petite chose, après tu compléteras sur opérationnellement comment on gère. Alors, les signalements, est-ce que ça fonctionne ? Déjà, petit rappel, parce que, excusez-moi, j'essaie de faire des réponses un peu groupées, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Quand vous signalez quelque chose sur l'application, pour nous, c'est une donnée qui a énormément de valeur. Oui, bien sûr, madame pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça sert énormément. Bien évidemment, on disait, c'est 6 000 signalements. Quand on dépouille, parce qu'on regarde après ce qu'il y a de répétition, parce que souvent vous avez les mêmes répétitions, parce que les personnes vont aller dans une station, il ne reste qu'un seul vélo, ils vont tous l'essayer, ils vont tous nous faire le signalement. Et là, c'est bien parce que le vélo remonte. Et puis parfois, vous allez dans une station, vous avez un autre vélo, une voiture est passée, elle a explosé le vélo. Malheureusement, c'est notre quotidien, vous avez des vélos dont l'arrière est régulièrement, vous voyez les roues qui sont complètement pliées en deux. Celui-là ne va pas être signalé, parce que tout le monde en passant dit « mais ». Ça se voit, de toute façon, le vélo est dans un tel état, personne ne va le prendre. Il ne va pas être signalé. Et malheureusement, certains vélos, parfois, ne vont pas être signalés du tout, et on ne s'en rendra pas compte parce que nous, on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas sur le terrain, parce qu'on n'a pas forcément un capteur qui va nous dire « la roue arrière s'est fait plier ». Il y a d'autres systèmes, parfois, qui sont plus informatiques. C'est-à-dire que le vélo a l'air bien, mais en réalité, la V-Box, n'a plus de batterie du tout, il ne communique plus avec le système, il est disparu du système pour nous. Donc on ne sait même plus qu'il est dans cette station-là. Si notre système n'est plus au courant de l'endroit où est le vélo, parce qu'il a peut-être gardé trace de l'endroit d'où le vélo est parti, mais pas forcément l'endroit où il est arrivé, eh bien, on n'est pas au courant. Alors après, quand on passe sur les stations, vous direz, mais oui, mais vous avez plein d'équipes qui passent sur les stations, vous avez ceux qui viennent nettoyer, vous avez ceux qui font ci, font ça. Mais en fait, ils ne voient pas forcément tout. Et un vélo qui est dans une station et qui a l'air bien comme ça, ils ne le repéreront pas forcément immédiatement. Et ça va prendre effectivement un temps certain. Et malheureusement, parfois, vous avez des vélos qui vont rester trop longtemps. Alors, on essaye, nous, avec la data, de plus en plus, maintenant, de croiser des données, d'aller croiser des chiffres, des machins, pour de plus en plus arriver à s'améliorer. Donc, voilà, on est meilleur qu'hier. Demain, on sera encore meilleur. Je vous rejoins. Il y a encore des vélos aujourd'hui que l'on a du mal à identifier, qu'on a du mal à aller réparer tout de suite. Parce que quand on le sait... Quand c'est identifié, quand ça rentre dans la moulinette, par contre, après, les actions qui se mettent en place.
Alors, les actions qui se mettent en place, grosso modo, dans la semaine, en semaine-journée, il est clair qu'on a deux indicateurs tout simples. Les signalements que vous évoquiez, madame, ils nous sont signalés sur liste. On sait quel numéro de vélo et quel numéro de station. On y va. On a une stratégie qui, à terme, beaucoup plus large, c'est de faire un cleaning complet de la station. Comme vous l'évoquiez, monsieur, si on a un diapason qui est HS, s'il y a un autre souci sur le mobilier, les lecteurs de CB, il faut absolument qu'on ait le signalement complet. Donc, à terme, pourquoi ? Plus on interviendra sur les stations, plus on pourra se permettre d'avoir du qualitatif, et plus ça permettra, parce que n'oubliez pas que le diapason permet de charger les VAE, de mettre un maximum de vélos disponibles à ce niveau-là. Donc, il est vrai que la stratégie évolue. Vous imaginez bien que tous les irritants qui interviennent nous... ralentissent, mais dans l'absolu, méga de la journée sont sectorisés sur des arrondissements particuliers. C'est pour ça que les éléments que vous m'évoquiez vont m'intéresser, puisque je pourrais refaire une mise à jour, parce que ça me paraît anormal que dans certains secteurs, on ne les voit pas. Ça me pose un léger problème, surtout qu'on trouve des nouveaux modes opératoires, on est en pleine amélioration sur le sujet. Concernant le thème de la régulation, on a pris la direction d'exploitation il y a en janvier 2022. On avait fait le constat qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le sujet et qui n'était pas optimum dans tous les cas. On a acté, je remercie M. Pereira qui est présent ce jour, de réunions quotidiennes tous les mercredis de 13h15 à 14h, sur lesquelles ça nous permet à nous d'avoir une optimisation en collaboration et ce qui nous permet d'avancer sur le sujet. En effet, on va être bloqué par les irritants de journée, la circulation et d'autres. On n'est pas fermé sur le sujet, je vous le dis sincèrement. Et si on pourra faire évoluer les choses au mieux, le mieux, on le fera avec plaisir. Aucun problème là-dessus.
Après, il y a le sujet, effectivement, de la régulation, parce que tu parles des réunions hebdomadaires.
Oui.
Régulation, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien côté place Stalingrad et l'espèce de triangle là, dont vous parliez tout à l'heure? Enfin bon, voilà. Le carré là-haut. Alors, moi, je n'ai pas toutes les données. D'une manière générale, on intervient au maximum, comme on disait tout à l'heure, par des zones de grappe, donc c'est-à-dire qu'on va remplir certaines stations, mais on sait qu'on ne pourra pas toutes les remplir, donc on va en remplir une partie, mais malheureusement pas toujours toutes. Et on intervient la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déplacements, et c'est pour ça que vous ne voyez pas la journée. Les camions, en tout cas avec les plateaux, parce que dans Paris, c'est juste un enfer, ça ne bouge pas, et la productivité est nulle. Et on préfère payer des personnes à travailler la nuit, avec des horaires de nuit, etc., pour qu'ils puissent déplacer du vélo plutôt que la journée rester tankée. Ce qui se passe, c'est que la journée, les véhicules qui vont réparer les vélos, et ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est qu'on est quand même sur une moyenne en ce moment de facilement 5000 vélos qui sont réparés par la maintenance itinérante par semaine. D'accord ? C'est des chiffres qui sont considérables. Et ça, ce sont des petites camionnettes. C'est pas un gros camion avec un plateau et des vélos dessus. Ce sont des petits véhicules, une espèce de berlingot blanc, voilà, et qui vont de station en station. Donc ils sont moins visibles. Mais alors cette régulation-là, dans le 19e.
Il faut qu'on étudie la question. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que voilà, il y a une vraie stratégie de société à prendre en compte. Moi, ma priorité, je pense que quand même, c'est de vous laisser le maximum de vélos disponibles. On a d'autres irritants qui interviennent. Il est clair que plus on interviendra pour que le parc soit solide, et c'est ça l'important, et c'est pour ça que toutes vos questions sont complémentaires, et c'est intéressant pour moi sur le regard qu'on peut avoir. Les irritants, vous les connaissez tous, vous les vivez au quotidien. Quand on a une circulation à 30 km/h intramuros, c'est compliqué. Voir comment on peut l'optimiser. Alors, ce qu'on avait fait, on a mis quand même en place pendant les grèves éventuellement des points d'achoppement où vous, clients, pouvez aller déposer des vélos. Et là, on mettait une ressource supplémentaire pour éventuellement trouver un parc qui nous permette de réguler. Je vous le conseille. Les résultats qui sont produits, je préfère même pas les évoquer tellement ça a été très compliqué. On a dû déplacer une vingtaine de vélos et c'est tanguy. Ouais. Grosso modo, on a dû mettre trois quarts d'heure, une heure, voire une heure et demie pour déplacer trois vélos. Non, mais c'est la vraie problématique. Après, on a des véhicules qui peuvent être adaptés, j'ai pas de souci. Comment trouver le meilleur cadre pour qu'en effet, on y trouve un peu plus de cohérence? C'est en étude et on va avancer avec vous, grâce à vous.
Bien, merci beaucoup. Je voudrais répondre pour ma part à certaines des questions qui ont été posées, en tout cas donner un point de vue sur les différentes questions. Déjà, est-ce qu'on a un problème avec le contrat? Oui, on a un problème avec le contrat depuis le début. Enfin, je crois que c'est de notoriété publique. C'est quelque chose qu'on a documenté très précisément parce que nous avons réalisé un audit dont les résultats seront rendus publics à la fin du mois et sur lesquels on a pu constater globalement les grands équilibres économiques du contrat. Et, voilà, en 2017, au moment où le marché a été passé, effectivement, il y a une appréciation qui a été faite sur l'évolution du service, sur la tarification, sur différents aspects qui n'étaient pas bonnes, tant du point de vue de l'autorité, le syndicat qui a organisé le service, que de Smovengo et dans la réponse qui a été faite. Je pense que ça, il faut l'assumer totalement. Maintenant, on doit apporter des réponses sur ces questions-là. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en place pour travailler sur le modèle économique du service. Ensuite, il y a une question de dimensionnement qui se pose évidemment, même de fonctionnement plus global du service. Alors, madame, vous disiez, est-ce qu'on peut avoir un service sans bornettes ? à Paris. Désolé pour les personnes qui ne sont pas parisiennes, mais il y a eu un référendum en début d'année sur la question des trottinettes en libre-service. Moi, j'ai bien retenu qu'un des arguments principaux sur le référendum sur les trottinettes, c'était le free-floating. Le free-floating, c'est des trottinettes qui traînent partout dans la rue, mais en vrai, c'est aussi des vélos qui traînent partout dans la rue. Et on voit bien que les moyens de régulation qui ont été mis en place sont moins efficaces qu'un vélo libre-service en bornette, comme ce qui est proposé par Vélib. En tout cas, moi, c'est très clairement le modèle que je défends et le modèle que le syndicat, les élus des communes membres défendent. Ensuite, est-ce qu'il faut s'arrêter de développer en dehors de Paris? Moi, je dis non. Et en tout cas, c'est la volonté de la métropole, du Grand Paris, d'accompagner le développement du service en dehors de Paris. Alors, Patrice Pathé est un très grand promoteur de cela. Et quelque chose qui n'a pas été dit dans l'introduction, mais la métropole du Grand Paris paye la moitié des subventions qui sont accordées à Smovengo par les communes extérieures à Paris. Et on est sur le point de signer un accord avec la métropole pour agrandir encore le réseau en dehors de Paris, rajouter une centaine de stations pour densifier le réseau et continuer de l'étendre vers des communes comme La Courneuve, Garches, qui vont rejoindre le service après Châtillon, Saint-Ouen, Bobigny, qui sont arrivés assez récemment dans le service. Voilà. Après, on a une question de développement du service. On ne va pas aller aux confins de la métropole sans avoir précédemment maillé complètement le territoire. Et puis, il y a des questions de densité qui sont un peu différentes à l'intérieur et à l'extérieur de Paris. À Paris, vous avez à peu près une station tous les 300 mètres. Et en tout cas, c'est comme ça que le service a été configuré au départ. En dehors de Paris, on n'en est pas encore. Et donc, on a encore besoin de densifier. Donc oui, je partage la vision de Stéphane Volant d'avoir un service doublé, mais je pense que ce doublement, il doit se faire aussi avec l'implication très forte des communes en dehors de Paris et un renforcement des stations à l'intérieur de Paris. En tout cas, c'est ce que nous, on a proposé à la ville de Paris pour agrandir certaines stations dans des secteurs très précis. Je voudrais venir sur la question de la régulation. En fait, les secteurs que vous mentionnez, on les connaît très bien. Dans le 19e, le fait de ne pas avoir de vélo mécanique qui remonte les pentes du 19e, c'est quelque chose qu'on connaît depuis le début du contrat de co en 2007. C'est pas nouveau du tout, le fait qu'on a des difficultés pour ramener des vélos. On a des mécanismes d'incitation, on a revu récemment, on a prévu de vous le présenter, je crois pas qu'on pourra le faire dans le détail, en tout cas vous l'avez dans le dossier, ce qui a été fait sur le dispositif des minutes bonus pour essayer d'inciter les personnes, les usagers à remonter des vélos dans les stations en altitude. C'est quelque chose qu'on a remis en place. Et puis, on connaît le 15e arrondissement, donc ça aussi c'est des secteurs dans lesquels on va chercher à renforcer. Après, moi je dis clairement par rapport à ce qui a été dit, j'entends et on devrait doubler, mais en fait ça va pas se faire instantanément, et donc il faut faire fonctionner le service tel qu'il est maintenant. Moi, je dis qu'un vélo qui est signalé, qui est connu et qui reste 15 jours en station, alors que tout le monde sait qu'il ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Je l'ai déjà dit dans différents comités des usagers et on doit vraiment travailler sur cette question-là. Je ne suis pas en train de faire une injonction, mais je pense qu'on doit travailler ensemble sur cette question-là pour être capable de détecter mieux les vélos qui ne fonctionnent pas. Je sais que vous faites des efforts dans cette direction. Quand vous avez un vélo qui est décroché, raccroché 10 fois et qui ne fait aucune course, eh bien, le système d'information devrait immédiatement dire qu'il y a un problème et qu'on soit au courant qu'il y a un problème avec ce vélo, que tout le monde soit au courant qu'il y a un problème avec ce vélo et qu'on sache combien de temps il a fallu pour qu'un camion de Smovengo vienne le chercher. Mais simplement avec des objectifs, il faut qu'on revoie les objectifs sur la qualité du service aussi sur ces questions-là, parce que c'est des vélos qui prennent des places dans les stations, c'est ça les vélos ventouses. En fait, c'est les vélos qui restent parce que ils sont pas en état. On peut comprendre qu'un vélo, que les roues crèvent. Il se trouve que j'ai un vélo personnel, je me suis fait chambrer avec ça. Je change et j'ai les mêmes pneus, c'est les meilleurs pneus possibles. C'est les Schwalbe machin, là, je ne sais pas si vous les connaissez. Je crève une roue par an, à peu près. Bon, voilà. Un Vélib, il roule 50 fois plus que mon vélo. Eh bien, il crève une roue par semaine. Voilà, c'est comme ça. Je fais un calcul à la grosse maille, mais... et donc, c'est normal que les roues des Vélib crèvent, mais c'est pas normal que les Vélib restent plusieurs jours, plusieurs semaines dans les stations, alors que tout le monde sait qu'ils fonctionnent pas et qu'on vienne pas les chercher. Ça, c'est pas possible. Et on va y travailler sur cette question-là. En tout cas, c'est ce que je souhaite ouvrir maintenant comme discussion avec vous sur la base... des résultats de l'audit. Voilà ce que je voulais dire simplement. Et peut-être qu'on peut passer à la deuxième série de questions. Allez-y.
Effectivement, on aimerait bien avoir plus de chiffres.
Alors, je me souviens que vous étiez intervenu la dernière fois, mais je suis désolé, j'ai oublié de votre nom.
Alors, Adrien Fabre, parisien et économiste. Donc voilà, c'est pour ça que je réclame des chiffres, pour qu'on puisse... Par exemple, tout à l'heure, vous aviez évoqué 20 millions d'euros pour 10 000 Vélib, ça fait 2 000 euros par Vélib, c'est ça ? C'est super cher. Non ? Ok, c'est plus cher qu'un vélo normal, alors qu'ils sont produits en série et achetés.
Parce que vous avez beaucoup de composants dedans que vous ne trouvez pas forcément dans les vélos normaux. Par exemple, on a cité les pneus tout à l'heure, ben on a aussi des Chevalbeu Marathon Plus. Regardez les différents composants que vous avez. On a des grosses batteries, on a des composants qui sont faits pour résister quand même à un nombre de courses qui est plus important qu'un vélo normal. Et il y a une V-Box qui a quand même un petit peu d'électronique embarquée, même si l'écran n'est plus de dernière génération. Il y a beaucoup de choses sur le vélo qui ont un coût.
Okay. Bien. Alors, attendez, juste un petit point d'ordre. On fait d'abord les questions et ensuite les réponses.
Ouais. Voilà. Non, du coup, ça serait bien d'avoir les chiffres. Enfin, on attend avec impatience l'audit et même tous les chiffres possibles sur Slovengo, sur tout, qu'on puisse analyser nous-mêmes. Et non, parce que là, on tourne autour du pot. La question, c'est les moyens. Parce qu'on se doute que vous avez des moyens limités, que vous faites ce que vous pouvez avec ça. Et là, quand on parle de doubler, on a tous envie de doubler le nombre de Vélib. Là, vous dites, on est premier, c'est beaucoup mieux que New York. Mais non, New York, c'est beaucoup mieux. S'ils ont deux fois moins d'utilisateurs pour le même nombre de Vélib, ça veut dire qu'ils ont un service deux fois mieux, en fait. Donc nous, on voudrait la qualité de New York, voire mieux. Et voilà, donc ça va être quatre fois mieux. Et donc voilà, donc moi, donc, on veut 80 000 Vélib, trois fois plus de stations, etc., deux fois plus de régulations. Donc ça va coûter deux fois plus cher ou quatre fois plus cher. Donc la question, c'est comment on gère cette hausse de coût. Et la dernière fois, vous aviez évoqué quatre pistes pour gérer la hausse de coût, mais une hausse de 12% seulement, alors qu'en fait, il faudrait doubler, tripler le budget. Alors je suis déçu parce que moi, je pensais qu'on allait vous demander notre avis sur comment gérer cette hausse de coût. J'ai vu dans ce que vous avez transmis que vous aviez déjà décidé, en fait, ça me demandait. Mais bon, on peut maintenant nous demander notre avis pour comment faire maintenant pour doubler le coût, quoi, et doubler le budget. Voilà.
C'est bon ? Merci beaucoup. Alors, on continue. Madame Oubou.
Oui, Capucine. Moi, j'habite à Montrouge, mais je dis surtout le Vélib sur Saint-Denis. C'est une question très naïve et on va sans doute me répondre que c'est un problème de rentabilité. Mais vu que le meilleur moyen de se déplacer à Paris, c'est le vélo, est-ce qu'il serait envisageable de faire la régulation à vélo, c'est-à-dire d'avoir des gens qui soient payés d'une façon ou d'une autre pour les déplacer ? Parce que pour l'instant, il y a juste des minutes bonus. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de monde qui utilise ces minutes bonus, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trajets de plus de 30 minutes ou plus de 45 minutes selon l'abonnement qu'ils ont ? Je ne suis pas sûre que cette politique incitative soit suffisante pour que les gens déplacent eux-mêmes les Vélib.
Ok. Allez-y, madame.
Alicia, donc moi j'utilise le Vélib sur des trajets courts ponctuels. Moi ma question elle est plus pour vous et pas pour Smovengo. On a beaucoup parlé de la régulation et du fait que Smovengo doit tenir ses engagements contractuels, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais finalement la cause racine du problème de régulation, c'est quand même qu'en fait on est une ville qui est déséquilibrée, où on a des gens qui vivent à des endroits et qui dorment à d'autres endroits. Et donc du coup ça n'apporte pas de réponse de votre côté, mais c'est de dire comment vous discutez avec aussi la ville sur justement comment elle s'organise et sur cet aspect un peu d'urbanisme qui est finalement la cause racine du problème de régulation.
Je prends avec plaisir. Allez-y, monsieur.
Oui, bonjour. Moi, je suis Valentin, j'habite à Maison-Alfort et je fais Maison-Alfort, Gare de Lyon en Vélib. Ma question, c'est plutôt par rapport aux JO qui vont arriver. Comment Smovengo se prépare du coup aux JO ? Et tout en ayant en tête que la métropole va continuer à fonctionner en parallèle de ces JO.
Merci beaucoup. Il y a d'autres questions ? Allez-y, madame.
Bonsoir, Nadia de Meudon, donc en banlieue. Je partage deux interrogations, mais qui ont déjà été diffusées. La première, c'est mon incompréhension sur le temps d'intervention sur les Vélib qui restent soit par les remontées comme signalés non fonctionnants, et ou ceux que l'on dépose et repose un million de fois. à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que trouver un logiciel qui puisse remonter très facilement l'intervention qui doit avoir lieu. Et la deuxième, ça reprend ce que vient de dire monsieur, à savoir la préparation aux JO qui arrive, avec un nombre d'usagers qui, pour le coup, va être exponentiel.
Bien, merci. Je propose... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette... Non, c'est bon. Alors, je propose que ce moment, que vous répondiez sur les questions qui ont été posées sur la régulation. Moi, je prends la question sur les déséquilibres territoriaux et je passerai la parole à Yannick Cabaret sur les Jeux Olympiques.
Alors, juste un petit mot là, parce que j'ai entendu quelque chose d'intéressant, et ça va dans le sens de ce que disait tout à l'heure Sylvain Réfaux, au niveau de la régulation, où l'on disait, mais pourquoi pas utiliser plus les utilisateurs en leur proposant des minutes bonus, des choses comme ça. C'est finalement, il faut rappeler qu'il y a eu un changement des règles d'attribution des minutes bonus, c'est pas vieux, ça date de cet hiver, les choses se mettent en place, est-ce que ça a changé radicalement après quelques mois d'utilisation? Est-ce qu'on voit un impact réel, franc, massif sur la régulation? J'en suis pas persuadé. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin? Peut-être. Est-ce qu'il faut se poser pas mal de questions sur comment faire en sorte que, naturellement, j'allais dire, sans forcément faire intervenir des camions, des personnes eux-mêmes prennent des vélos et les ramènent dans des endroits où il y a des manques? C'est justement une des nombreuses pistes de réflexion sur lesquelles on travaille actuellement avec le SAVM et sur lesquelles on va demander aux utilisateurs de plancher dans les prochains mois. Mais je pense qu'on vous en reparlera de ça. Il n'y a pas de solution miracle. Au niveau de la régulation, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des camions qui se déplacent comme ils peuvent la journée et essentiellement la nuit, et après qui régulent sur certaines stations en particulier, mais peuvent pas forcément intervenir partout et tout le temps. D'où la problématique que l'on a. Après, combien ça coûte, quoi, une opération de régulation? Je pense qu'il faut regarder plus au global.
Oui, Adrien, on va en parler.
on va regarder l'équilibre économique du système globalement. Et après, il y a la gestion même du contrat, parce que en fait, vous n'êtes pas sans savoir la manière dont on fonctionne, c'est qu'effectivement, comme vous dites, il y a des opérations qui sont attendues au contrat, qui vont être rémunérées, et puis il y a une gestion qui est faite aussi par rapport à un certain nombre d'objectifs. Les objectifs de régulation, malheureusement, c'est des objectifs qui sont atteints. Ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant, mais les objectifs qui étaient fixés au contrat sont atteints. Alors qu'à l'inverse, il y a des tas d'objectifs qui ne sont pas atteints et qui finalement ne gèrent moins d'insatisfaction vis-à-vis des clients. Donc effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute rapidement avec le SAVM.
Bien. Ce qui nous intéresse, c'est l'expérience des usagers.
Monsieur le Président, pour une fois, je ne vais pas être complètement d'accord avec mon voisin de gauche. Comme ça, au moins, je ne serais pas taxé d'être dans le déni ou d'être dans la contrition, ou je ne sais plus ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il y a deux documents dans ce contrat. Il est important que vous le sachiez, et je vous dirai un mot sur les chiffres après. D'abord, il y a un contrat sur lequel est fondé les pénalités. Et c'est vrai que les objectifs de pénalité dans le contrat, les objectifs de régulation dans le contrat sont atteints et ne font l'objet d'aucune pénalité, pour le moment. Et le président Réfaux a raison d'envisager, de dire, bon, peut-être qu'on va modifier cet état de choses, mais dans les pénalités prévues au contrat, nous atteignons nos objectifs. En revanche, il y a ce qui s'appelle les cahiers techniques.
Pas tout à fait tous, quand même, on peut le dire.
Non, mais sur la régule. Sur la régule, on n'a pas de pénalité importante. Alors peut-être qu'il y en a quelques-unes, mais en tout cas, pas dans les proportions du problème qui semble vous poser. Il n'y en a pas, me dit Nicolas. En revanche, il y a un cahier technique où là, il y a un engagement de Smovengo qui est pris au moment de la signature du contrat. Donc au moment où, monsieur, vous aviez raison de dire qu'on ne pouvait pas imaginer l'explosion des usages et la révolution des usages. Et dans ce cahier technique, Smovengo s'est engagé à mettre des moyens pour atteindre ses objectifs. Et là, effectivement, quelques années après le contrat, le président Réfaux a raison de dire que les objectifs sont atteints en termes de pénalités ou de bonus-malus, si je puis dire, pour faire court. Mais en revanche, vous ne mettez pas autant de moyens que vous aviez envisagé pour faire une régulation. Sous-entendu, si vous mettiez tous ces moyens, la régulation s'améliorerait d'autant. Je ne le crois pas. Mais surtout, les moyens, nous en mettons supplémentaires. Smovengo, c'est aujourd'hui 500 collaborateurs. Il y en avait beaucoup moins au début du contrat parce que nous effectuons beaucoup de choses qui n'existaient pas au début et que nous avons été obligés d'adapter en cours de contrat. Par exemple, les petites réparations sur le terrain qui ne nécessitent plus du coup de rapatrier les vélos dans nos ateliers et donc qui favorisent normalement une meilleure régulation. Voilà où on en est là-dessus. Pour ce qui est des chiffres, le président Réfaux a raison de dire, et je termine d'une phrase, il y a un déséquilibre aujourd'hui du contrat sur plein de sujets. L'audit a mis un éclairage, et il vous sera partagé sans doute, pour dire la sincérité des chiffres, et vous vous apercevrez que, assez rapidement, le président et moi, Smovengo et le SAVM, allons nous mettre d'accord pour justement rétablir l'équilibre du contrat et nous permettre d'aller au-delà et de trouver peut-être des ressources, des moyens, de nouvelles façons de vous rendre un meilleur service.
Bien, merci. Juste une petite précision, parce que en fait, les objectifs sur la qualité de service ne sont pas atteints, et c'est la raison pour laquelle vous avez écopé d'une pénalité de 2 millions d'euros l'année dernière. Il y a deux critères.
Sur la régulation, monsieur le Président. La régulation, nous ne sommes pas pénalisés sur la régulation. Nous sommes pénalisés sur plein d'autres choses, mais pas sur la régulation.
Il y a deux critères sur la question de la régulation. Il y a un critère qui dit qu'il faut qu'il y ait des vélos en station. Celui-là, vous l'atteignez. Et il y a un deuxième critère qui dit qu'il faut qu'il y ait des vélos qui marchent en station. Et celui-là, vous ne l'atteignez pas. Voilà, c'est ça notre problème, en réalité. Bien. Je réponds sur la question des déséquilibres territoriaux. Évidemment, moi, je suis conseiller de Paris et conseiller de la métropole du Grand Paris. On travaille sur le schéma de cohérence territoriale métropolitain, sur les questions de transport aussi, et même sur les questions de fiscalité. Parce que moi je suis choqué de voir les déséquilibres à l'intérieur de la métropole sont entretenus par des questions fiscales. Les entreprises des Hauts-de-Seine payent deux fois moins d'impôts, enfin sont imposées avec des taux deux fois moindres que les entreprises de Seine-Saint-Denis. Et je pense que ça concourt au fait qu'il y ait des mouvements populaires quotidiens. Voilà, j'ouvre le débat pour en discuter ensemble si vous le souhaitez. Mais en tout cas, oui, il y a des questions structurelles à voir sur la métropole du Grand Paris, sur la façon dont les grands équipes équilibre fonctionne, et c'est des questions d'urbanisme, c'est des questions de transport, et c'est des questions de fiscalité, voilà, c'est des questions politiques finalement, et qui sont adressées dans le cadre du Conseil métropolitain, et pour le coup, comme conseiller métropolitain, j'y prends une part active. Ensuite, je passe la parole au directeur général pour parler des Jeux Olympiques.
Merci, monsieur le Président. Alors, sur les JO, en fait, on a plusieurs cordes à notre arc. Un premier dispositif qui consiste à être présent sur les sites olympiques pendant la période olympique et paralympique d'ailleurs, avec des grandes stations, des stations géantes, comme on le fait par exemple sur Solidays dans quelques jours, et on va le faire aussi sur un match de foot la semaine prochaine qui est France-Grèce le 19 juin, lundi, pour la première fois au Stade de France. Et donc, pendant les JO, on va déployer ce type de stations, qui sont des grandes stations qu'on dit humanisées, parce qu'en fait, ça consiste en un barriérage, principalement, avec la création de flux, pour déposer plus facilement son Vélib et pouvoir récupérer un Vélib à l'issue de l'événement. Le principe, c'est que la zone de stockage n'est accessible qu'aux employés de Smovengo, et on peut concentrer les Vélib, donc en mettre beaucoup plus que si on les mettait sur des bornettes. Et donc, on développe ainsi des stations qui font, par exemple, 200 Vélib, là, pour le match de foot du 19, et à Solidays, 800 Vélib, sur une surface qui, finalement, est relativement limitée, puisque pour 200 Vélib, on a besoin de 375 mètres carrés, ce qui n'est pas immense, par rapport à ce qu'on devrait faire si, évidemment, ils étaient stockés sur des bornettes classiques. Donc, on est en train de travailler avec l'ensemble des interlocuteurs, la Ville de Paris, la MGP, les communes concernées, la direction interministérielle aux Jeux Olympiques, Paris 2024 et autres, pour mettre en place ce plan de déploiement avec environ 16 stations éphémères qui seraient déployées, donc 16 stations géantes qui seraient déployées sur l'ensemble des sites qui appartiennent au réseau Vélib. Et au total, ça fait, je crois, la place pour plus de 3000 vélos, plus de 3000 Vélib sur l'ensemble de ces sites. Ça, c'est le premier dispositif. Le second, c'est l'extension des stations qui sont à proximité des nœuds modaux, c'est-à-dire en fait des gares des grandes infrastructures, et des sites touristiques, parce qu'on va accueillir forcément beaucoup de touristes pendant cette période, et pas que des franciliens. Donc il s'agira de faire face à une demande supplémentaire sur ces emplacements-là. Et donc on a pour objectif d'étendre un certain nombre de stations, plusieurs dizaines de stations sur ces lieux-là. Ils ne sont pas encore identifiés. C'est un peu plus facile à faire que le premier dispositif. Donc c'est plutôt pour le second semestre qu'on va instruire ce sujet. Ensuite, on a prévu de prévoir aussi un tarif particulier pendant la période olympique, notamment pour les touristes. Enfin, ça vous concerne peut-être un peu moins, mais pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés longue durée, au service, il faudra qu'ils puissent accéder facilement à des tickets courte durée correspondant à leur présence sur site. Et donc, ça peut être une semaine, ça peut être deux semaines. On a déjà des tickets pour usage unique, on a déjà des tickets pour une journée, pour trois jours, mais on a rien de plus long que ça. Et donc, on va s'adapter. Et donc ça fait partie de notre dispositif JO. Et par ailleurs, on a prévu aussi de commercialiser l'offre Vélib, donc pour de la courte durée toujours, via d'autres canaux que ceux qui existent aujourd'hui, parce qu'en fait on est limité par la loi aujourd'hui qui ne nous permet pas d'autoriser d'autres entreprises ou d'autres intervenants à commercialiser Vélib. Il n'y a que Smovengo qui peut le faire. Les recettes doivent être perçues directement par Smovengo aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas, par exemple, proposer à des hôtels des services de transport. Je pense à la SNCF, à la RATP, puisque vous avez dans les trains, par exemple, des ventes de tickets métro. On pourrait très bien imaginer des ventes de tickets Vélib. Et puis, on ne peut pas autoriser non plus des offices de tourisme ou des voyageurs, enfin des agences de voyage, à commercialiser du Vélib. Et bien, pendant la période olympique, ce sera possible. On a obtenu cet amendement législatif dans le cadre de la loi JOP qui est passée au Parlement il y a quelques semaines. Et donc, on va faire ça aussi pour faciliter l'accès d'autres usagers que vous ou nous, en fait, qui ne connaissent pas forcément le service, mais qui pourront profiter de ce service public pendant leur venue à Paris. C'est les principaux dispositifs qu'on prévoit et on pourra vous tenir au courant de l'évolution de ces sujets.
Merci beaucoup. Alors, ce que je propose, il est 21h10. Je propose qu'on aille vraiment vers la fin de la conclusion de notre réunion, sachant qu'on va se revoir à la rentrée et dans un format qui permettra d'avoir des échanges plus précis les uns et les autres avec des données. Pour discuter. Allez-y, madame.
Excusez-moi, c'était juste un élément de compréhension. Comment vous allez fournir, si vous faites autant de stations et de développement, comment vous allez réussir à fournir tous les vélos qu'il faut? J'ai pas compris, il y a quelque chose.
C'est une très bonne question, effectivement. Alors, pendant les JO, en fait, il y aura aussi des stations qui seront fermées, parce que sur les sites olympiques, alors on n'a pas encore la liste, mais on anticipe qu'il y en aura quand même un certain nombre. Et donc, une partie des vélos qui seront utilisés par les touristes seront des vélos qui ne seront plus utilisables sur les stations. Et donc c'est ainsi qu'on imagine que ça va se passer, d'autant plus que Smovengo, suite à des discussions longues et ardues au courant 2022, a commandé 3000 vélos supplémentaires et donc s'est mis au niveau qui est prévu par le contrat pour la première fois depuis 5 ans. Et donc, on a 3000 vélos qui vont arriver d'ici à la fin du premier semestre 2024. Et donc, pour les JO, précisément, pour les épreuves des JO, on aura 3000 vélos supplémentaires par rapport à la situation d'aujourd'hui ou plutôt d'il y a 3-4 mois, en fait, parce qu'ils ont... L'entreprise a déjà commencé à augmenter le nombre de Vélib, et ça figure d'ailleurs sur les présentations qu'on aurait aimé vous faire et qu'on vous fera probablement donc la prochaine fois. Si vous regardez le nombre de vélos qui est annoncé par Smovengo et par nous sur nos graphiques, vous voyez qu'effectivement il y a une pente ascendante assez nette, ce qui est très bon signe pour le service.
Bien, merci beaucoup. Je propose qu'on en reste là pour ce soir. Donc prochain comité, la date. Alors deux rendez-vous très importants. Fatima, je te passe la parole pour les prochains rendez-vous. Alors, le micro, il est possible. Voilà.
Alors, le 27 juin, certains d'entre vous se sont inscrits pour la visite des ateliers. Donc, rendez-vous le mardi 27 juin à 14h. Vous avez normalement reçu l'invitation. Je vous ai juste demandé de me confirmer que vous êtes toujours disponible à cette date. Voilà. Et la prochaine réunion, donc, c'est le 18 septembre. C'est indiqué dans tous les supports et je vous avais donné l'info au départ. Donc vous avez la prochaine réunion et celle d'après, c'est au mois de décembre. Vous avez les dates normalement.
Merci beaucoup. Vas-y, Yannick.
Juste un petit point, vous allez recevoir bientôt un courriel qui vous propose de participer à la prise de photos en Vélib ou éventuellement autre. D'ailleurs, c'est pour la banque d'images du syndicat Autolib Vélib Métropole. On manque en fait de photos qu'on puisse exploiter sur nos outils numériques. Et donc, n'hésitez pas à vous proposer. Il y aura en plus peut-être quelque chose à gagner. Ce sera probablement pas énorme. Je le dis tout de suite pour éviter toute illusion. Mais voilà, enfin, toute participation à ce genre de choses mérite rémunération. Et donc, vous aurez quelque chose au bout du compte.
Merci. Merci beaucoup. Très bonne soirée.